Une fois qu'il se trouva être la dernière, vous allez voir pourquoi, il me convia, comme s'il me rendait grand honneur. « Monseigneur de Périgord, demain, s'il plaît de me suivre, je vous emmène à la Montrée. » Moi, j'attendais toujours de m'accorder avec lui sur quelques propositions, si vagues fussent-elles, à transmettre aux Anglais, pour pouvoir accrocher un commencement de négociation. J'avais proposé que les deux rois commissent des députés pour dresser la liste de tous les litiges entre les deux royaumes. Rien qu'avec cela, on pouvait discuter pendant 4 ans. Ou bien je cherchais un autre abord, tout différent. On feignait d'ignorer les litiges et l'on engageait les préliminaires sur les préparatifs d'une expédition commune vers Constantinople. L'important, c'était de commencer à parler. J'allais donc traîner ma robe rouge dans cette vaste pouillerie qui campait sur la Beauce. Je dis fort bien pouillerie, car au retour, Brunet dut me chercher les poux. Je ne pouvais tout de même pas repousser ces pauvres hères qui venaient baiser le bas de ma robe. L'odeur était encore plus incommodante qu'à Breteuil. La nuit précédente, un gros orage avait crevé, et les piétons avaient dormi à même le sol détrempé. Leurs guenilles fumaient sous le soleil du matin et ils puaient ferme. L'archiprêtre, qui marchait devant le roi, s'arrêta. Décidément, il tenait grande place, l'archiprêtre. Et le roi s'arrêta, et toute sa compagnie. « Sire, voici ceux de la prévôté de Bracieux, dans le bailliage de Blois, qui sont arrivés d'hier. Ils sont piteux. » De sa masse d'armes, l'archiprêtre désignait une quarantaine de gueux dépenaillés, boueux, hirsutes. Ils n'étaient point rasés depuis 10 jours, lavés, n'en parlons pas. La disparité de leurs vêtements se fondait dans une couleur grisâtre de crasse et de terre. Quelques-uns portaient des souliers crevés, d'autres avaient les jambes entourées seulement de mauvaises toiles, d'autres allaient pieds nus. Ils se redressaient pour faire bonne figure, mais leur regard était inquiet. Dame, ils n'attendaient pas de voir surgir devant eux le roi en personne, entouré de sa rutilante escorte, et les gueux de Bracieux se tassaient les uns contre les autres. Les lames courbes et les pics à crocs de quelques vouges ou godendards pointaient au-dessus d'eux comme des épines hors d'un fagot fangeux. « Sire, reprit l'archiprêtre, ils sont 39 alors qu'il devrait se trouver 50. 8 ont des godendards, 9 sont pourvus d'une épée, dont une très mauvaise. Un seul possède ensemble une épée et un godendard. L'un d'eux a une hache, 3 ont des bâtons ferrés et un autre n'est armé que d'un couteau à pointe. Les autres n'ont rien du tout. » J'aurais eu envie de rire. Si je ne m'étais demandé ce qui poussait le roi à perdre ainsi son temps et celui de ses maréchaux à compter des épées rouillées. Qu'il se fît voir une fois, soit, c'était bonne chose, mais chaque jour, chaque matin, et pourquoi m'avoir convié à cette piètre montrée? J'eus surprise alors d'entendre son plus jeune fils, Philippe, s'écrier du ton faux qu'ont les jouvenceaux quand ils veulent se poser en homme mûri, « Ce n'est certes point avec de telles levées que nous emporterons de grandes batailles !» Il n'a que 14 ans, sa voix muet, et il n'emplissait pas tout à fait sa chemise de maille. Son père lui caressa le front, comme s'il se félicitait d'avoir donné naissance à un guerrier si avisé. Puis, s'adressant aux hommes de Bracieux, il demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas mieux pourvu d'armes ? Allons, pourquoi ? Est-ce ainsi qu'on se présente à mon hoste ? N'avez-vous pas reçu d'ordre de votre prévôt ?» Alors, un gaillard, un peu moins tremblant que les autres, peut-être bien celui qui portait la seule hache, s'avança pour répondre « Sire, notre maître ?» Le prévôt nous a commandé de nous armer chacun selon notre état, on s'est pourvu comme on a pu. Ceux qui n'ont rien, c'est que leur état ne leur permet pas mieux. Le roi Jean se retourna vers le connétable et les maréchaux, arborant cet air des gens qui sont satisfaits quand, même à leur détriment, les choses leur donnent raison. Encore un prévôt qui n'a pas fait son devoir. Renvoyez-les, comme ceux de Saint-Fargeau, comme ceux de Soissons. Ils paieront l'amende. Loris, vous notez. Car, ainsi qu'il me l'expliqua un moment après, ceux qui ne se présentaient pas à la montrée, où ils venaient sans armes et ne pouvaient combattre, étaient tenus de payer rachat. Ce sont les amendes dues par tous ces piétons qui me fourniront le nécessaire pour solder mes chevaliers. Une belle idée qui avait dû lui être glissée par Simon de Bussy, et qu'il avait faite sienne. Voilà pourquoi il avait convoqué l'arrière-ban. Et voilà pourquoi il comptait avec une sorte de rapacité les détachements qu'il renvoyait dans leur foyer. Quel emploi aurions-nous de cette piétaille, me dit-il encore. C'est à cause de ces troupes de pied que mon père a été battu à Crécy. La piétaille ralentit tout et empêche de chevaucher comme il convient. Et chacun l'approuvait. Sauf, je dois dire, le dauphin, qui semblait avoir une réflexion sur le bout des lèvres, mais la garda pour lui. Était-ce à dire que, de l'autre côté du camp, du côté des bannières, des chevaux et des armures, tout allait à merveille? En dépit des convocations répétées, et malgré les beaux règlements qui prescrivaient aux bannerets et capitaines d'inspecter 2 fois le mois, à l'improviste, leurs hommes, armes et montures, afin d'être toujours prêts à faire mouvement, et qui interdisait de changer de chef ou de se retirer sans permission, à peine de perdre ses gages et d'être puni sans épargne. Malgré tout cela, un bon tiers des chevaliers n'avait pas rejoint. D'autres, astreints à équiper une route ou compagnie d'au moins 25 lances, n'en présentaient que 10. Chemise de maille rompue, chapeau de fer bosselé, harnachement trop sec qui craquait à tout moment. Eh, messire, comment pourrais-je y pourvoir? Je n'ai point encore reçu mes soldes et j'ai assez d'entretenir ma propre armure. On se battait pour referger les chevaux. Des chefs erraient dans le camp à la recherche de leurs troupes égarées et des traînards à la recherche plus ou moins de leurs chefs. D'une troupe à l'autre, on se chapardait la pièce de bois, le bout de cuir, la laine ou le marteau dont on avait besoin. Les maréchaux étaient assiégés de réclamations et leurs têtes résonnaient des rudes paroles qu'échangeaient les bannerets coléreux. Le roi Jean n'en voulait rien savoir, il comptait les piétons qui paieraient rachat.